Les sujets sont complètement différents hein, de semaine en semaine avec vous dans cette chronique Un jour, un livre, un auteur. Bonjour Philippe Nonni.
Bonjour et, Philippe Subercase.
Et bonjour notre Diego Arrabal, notre
doyen.
La sagesse.
Notre
la
doyen.
Sagesse,
notre doyen.
La sagesse
bonjour,
est là. Arrabal.
Bonjour Philippe. Bonjour Philippe.
Voilà, bonjour. Mais ça reste, je pense que ces bonjours vont rester à Lina. Je pense que ça, Lina va le garder en souvenir.
Ah,
ils les ont déjà.
C'est précieux, c'est précieux. Si certains ne gardent pas les podcasts longtemps, Lina va le garder parce que ça, c'est immortel. Ceux qui comprendront.
Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de feu bien visé.
Bien visé. Philippe Nonni, aujourd'hui, quand vous êtes arrivé, vous étiez tout excité par rapport au sujet et au livre que vous allez nous présenter.
On a toujours des sujets passionnants. Et on va revenir là, dans cette émission littéraire, donc Un jour, un livre, un auteur, sur la Première Guerre mondiale.
Il fait jamais dans la paix, il fait toujours dans la guerre, Nonni.
Oui, mais j'aime bien moi, le côté commémoratif et on va cependant l'aborder, vous allez voir, sous un angle inhabituel et jamais abordé ici. Aussi curieux que cela puisse paraître, on ne va pas parler ici des tranchées, des combats au corps à corps, mais bien de la manière dont les soldats ont consolidé les tranchées pour qu'elles ne s'écroulent pas sous l'effet de la pluie. Pour ce faire, il a fallu du bois, beaucoup de bois, des quantités considérables de bois, des mètres cubes par milliers pour consolider et entretenir les 700 km de tranchées sur le front. Mais pour ce faire, il a aussi fallu des bras. Le gouvernement français a bien rappelé les chasseurs forestiers, mais cela n'était pas suffisant. Dès 1916, le général canadien Alexander McDougall met en œuvre le déploiement de 18 compagnies du corps forestier canadien, soit environ 4000 hommes répartis dans les départements des Landes et de la Gironde pour couper des arbres et alimenter le front. Une histoire totalement méconnue, dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invité du jour. Bonjour David Devigne.
Bonjour.
Bonjour David.
David Devigne, alors je dirais vous êtes un peu, j'ai regardé sur internet, vous êtes un peu un multicarte, artiste peintre, photographe dans le domaine militaire et historien spécialiste des troupes du Commonwealth. C'est cette dernière compétence qui nous intéresse aujourd'hui et pour laquelle on vous invite. Expliquez-nous cette histoire si singulière, ces 18 compagnies du corps forestier canadien, des spécialistes de l'exploitation forestière, du rôle crucial qu'elles ont tenu pour alimenter en bois le front et permettre de développer et entretenir un réseau de tranchées, dans un livre intitulé « Les faiseurs de sciures, le corps forestier canadien du groupe de Bordeaux, ou le plus important déploiement en France, 1917-1919 ». On vous écoute.
Alors, c'est un vaste sujet puisque j'ai consacré un livre, puis après une bande dessinée. Alors, l'histoire, c'est sur les 4000 hommes, en fait, ils étaient 30 000 déployés entre la France et la Grande-Bretagne, ce qui fait l'effectif d'une division. Et au Canada comme en France, ils sont complètement oubliés par leur engagement. Ces hommes ont été déployés en France d'abord en Normandie, puis après dans le Vosges et le Jura, dans le bassin parisien, un peu dans la Somme, mais il y avait quand même des combats, et après dans la plus grande forêt artificielle d'Europe, qui est les Landes de Gascogne. Comme vous aviez rappelé, le général Alexander McDougall va déployer 18 compagnies, 4000 hommes, et ces hommes vont exploiter cette forêt, et pour un peu donner un aperçu de leur ou une étendue de leur travail, c'est 75% du bois d'œuvre qui vont être utilisé les troupes alliées vont être coupés par les troupes canadiennes.
75%.
Oui. C'est énorme.
Ouais.
Il faut voir que le Canada rentre en guerre en 1914. Comme le Commonwealth, comme la Grande-Bretagne, c'est-à-dire ils ont malgré tout un gouvernement autonome, puisque c'est un dominion, mais ils ont des droits, ils ont des devoirs d'allégeance à l'Empire britannique. Voilà, et c'est pour ça que le Canada, quelques jours après la Grande-Bretagne, va déclarer la guerre à l'Empire allemand.
D'accord. Alors on va lire la quatrième de couve de cet ouvrage qui va nous en dire un peu plus effectivement sur ce que vous avez fait. Puis on viendra, on va faire une séquence de deux émissions avec vous, de deux émissions littéraires, parce que vous avez sorti après deux bandes dessinées, mais ça on en parlera effectivement un peu plus tard. On va d'abord parler de la quatrième de couverture, donc de l'ouvrage « Les faiseurs de sciures », le corps forestier canadien du groupe de Bordeaux, le plus important déploiement en France 1917-1919, signé par vous, David Devigne. Alors que la Grande Guerre fait rage sur le front français, les Alliés ont besoin de bois pour les tranchées et les lignes de chemin de fer. Les forêts françaises ne sont pratiquement plus exploitées car les hommes sont mobilisés loin de leurs forêts. Le gouvernement français va rappeler du front les chasseurs forestiers ONF, l'acronyme Office National de la Forêt, afin de mettre en place avec le service des bois la préparation des réquisitions. Dès 1916, le général Alexander McDougall met en œuvre le déploiement de 18 compagnies du corps forestier canadien, soit environ 4000 hommes en Gironde et dans les Landes. Cette armée de soldats bûcherons s'installe dans les forêts du massif forestier des Landes de Gascogne entre 1917 et 1919. Ces hommes de toutes origines, accompagnés de chevaux de trait pour le débardage en forêt, sont des professionnels de l'exploitation forestière. Ils construisent de gigantesques scieries et de véritables petits villages. On les appelle les faiseurs de sciures, d'où le titre de votre ouvrage. Le rythme industriel d'abattage des arbres fascine autant qu'il est frais. C'est un choc culturel pour les Aquitains qui voient débiter en une semaine ce qu'ils font en 3 mois, redoutant le saccage de leurs chers arbres d'or. Arbres d'or, puisqu'à l'époque, on allait chercher la gemme, effectivement, pour faire l'huile, l'essence de térébenthine au niveau des arbres. Mais chacun doit participer à l'effort de guerre. Les cadences continuent alors qu'apparaît un autre ennemi, l'influenza, la grippe espagnole. Parmi les forestiers qui y succomberont, 43 sont inhumés dans l'ancienne région d'Aquitaine. Et donc on va découvrir dans cet ouvrage, comme vous le mettez, ces éléments. Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire cette histoire? C'est le devoir des mémoires. Et comment vous êtes tombé sur cette histoire? Parce que moi, je n'en avais jamais entendu parler. Diego Arrabal, vous savez, qui est le doyen, hein, qui va fêter ses 100 ans bientôt. Donc, là, je n'avais jamais, jamais entendu parler. Je l'ai consulté et il ne nous a rien dit. Quoi. Donc,
Alors, c'est
mais je n'étais pas né si j'ai 100 ans.
Exactement, c'est vrai. Allez-y, David.
Oui. Disons que c'est vraiment par hasard, parce que je m'intéresse depuis une trentaine d'années à l'histoire du Canada, à travers les deux guerres mondiales et d'autres conflits, depuis la colonisation du Canada par les Européens. Et j'avais vu dans un livre d'histoire canadien, écrit par un auteur canadien, qui est rappelé qu'il y avait eu le déploiement de troupes du corps forestier canadien, mais c'était un entrefilé de 2-3 lignes. Et en consultant les fiches du Commonwealth Forest Commission, la commission des sépultures de l'Empire britannique, j'ai découvert qu'à moins de 200 mètres de chez moi reposaient 10 soldats canadiens du corps forestier canadien. Donc je suis allé voir leur sépulture. Et là a commencé l'enquête, et puis j'ai mis, on va dire, le doigt dans un engrenage, et après, ben, j'ai plus lâché l'affaire. J'ai voulu comprendre pourquoi ils étaient là, ce qu'ils sont venus faire dans ma région, et puis pourquoi ils étaient décédés à Talence, à Biganos, à Parentis-en-Born, à L'Esperon. Comme on dit, 43 soldats reposent encore. 2 ont été exhumés et ont été rapatriés dans les nécropoles du nord de la France.
À la demande des familles ou comment ça se passe, hein?
C'est là, je pense que c'est surtout... je suppose, hein, c'est le manque d'entretien, puisque c'est soit les communes, soit le Souvenir français qui s'occupent des sépultures. Et là, je pense que le Commonwealth Forest Commission n'a pas trouvé un accord avec ces communes ou le Souvenir français. Et donc, ils ont rapatrié le corps. L'un était en 58 et l'autre était dans les années 80. Il a été exhumé, donc c'est c'est pas si vieux que ça.
C'est pas si vieux que ça. Et alors, ces tombes aujourd'hui dont vous parlez, on pense effectivement aux nécropoles qui sont entretenues, hein, qui sont à la charge de l'État de vitam aeternam. Là, elles étaient entretenues ou pas? Parce que j'ai songé, moi, par exemple, on a fait venir durant la Première Guerre mondiale des travailleurs donc coloniaux de la MOI, la main-d'œuvre indigène. Par exemple, à Bergerac, il y a eu des travailleurs coloniaux qui ont été tués durant la Seconde Guerre mondiale. Les ronds sont envahis, les tombes. Ce qui fait qu'un jour, des gens les ont dégagés. Est-ce que vous, c'est la même chose?
Alors là, non. Ce sont dans des petits carrés militaires ou carrément dans le cimetière civil. Mais il y a quand même un entretien et il y a quand même des membres de cette organisation de l'Empire britannique qui fait des contrôles. sur, je ne peux pas dire la fréquence, mais ils vont voir si les tombes sont entretenues et rappellent le souvenir français, soit les mairies, d'entretenir ces sépultures.
Et alors, quand vous découvrez ces tombes, bon, vous ne connaissez absolument pas, vous ne savez même pas qu'on les appelait les faiseurs de sciure.
Non, là, c'est vraiment, c'est au fil de mes recherches, c'est les témoignages des anciens qui... ou des témoignages de ces unités, puisque j'ai consulté les livres de marche des unités, c'est-à-dire aux Archives nationales du Canada, c'est qu'ils ont énormément numérisé leurs documents, et donc on pouvait consulter les livres de marche des unités.
Ce qu'on appelle les JMO chez nous, les journaux des marches d'opération, c'est la même chose au Canada.
C'est la même chose, exactement. Et c'est, alors, les compagnies, il faut savoir qu'au départ, c'était des bataillons, donc un bataillon, il faut penser régiment. Chez eux, c'est-à-dire le régiment, c'est en temps de paix, le bataillon, c'est en temps de guerre. Ça n'a rien à voir avec notre terminologie militaire.
D'accord.
Voilà. Donc c'est à peu près 1000 hommes, entre 800 et 1000 hommes. Mais Alexander McDougall et ses officiers en second vont comprendre que c'est très très lourd à déplacer, ce genre d'unité. Donc ils vont fractionner en compagnies. Les compagnies, ça va être à peu près 180 à 220 hommes, qui vont avoir à peu près entre 6 à 8 officiers qui vont commander ces unités. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur des unités francophones qui venaient d'Acadie, donc de Prince-Maritime, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et l'île du Prince-Édouard au Canada. Et donc ces compagnies francophones, ben, dont une qui était la 48e, qui dépendait d'un régiment d'infanterie, parce que d'abord, vont être créées des unités militarisées de bûcheronnage, qui sont le 224e, le 242e, le 238e, mais on n'aura pas assez d'hommes. Donc on va piocher dans des unités d'infanterie qui vont juste arriver en Grande-Bretagne. Donc c'est ainsi qu'on va transférer le 230e voltigeur canadien-français, le 165e bataillon d'infanterie canadien, qui est en fait acadien, et d'autres unités comme le 186e, le 156e ou le 122e qui vont être transférées dans des unités forestières.
Alors une question, bon, là ces 81 hommes ils viennent dans un endroit où la langue c'est le français, tous ces 81 hommes étaient tous des francophones ou est-ce qu'il y avait des anglophones dans le lot parce qu'il y avait la barrière de la langue forcément?
Alors d'après le rapport du colonel Heard qui commandait, donc le groupe de Bordeaux, c'est, on va dire, c'est régional, et au niveau région c'est découpé en deux districts au niveau département, le 12e qui va être le sud de la Gironde et le nord des Landes, et le 4e district va être celui des Landes, c'est-à-dire près de Dax. Ils considèrent que ces 50% étaient francophones et 50% étaient francophones. Anglophones et francophones.
Et alors ça veut dire qu'ils mélangeaient, je suppose, les troupes pour qu'il puisse y avoir une traduction, parce que à l'époque, en plus, je vois mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, donc cette époque-là, c'était l'époque de mes arrière-grands-parents et de mes arrière-arrière-grands-parents dans les Landes, ils ne parlaient même pas français, ils ne parlaient pas toi, bon, ils comprenaient le français, il n'y avait aucun souci, mais ça veut dire que ces troupes-là devaient forcément être au contact.
Alors,
français pour travailler ou pas? Comment ça se passait?
Alors, il y a des compagnies qui sont restées exclusivement francophones, mais il y a des compagnies exclusivement anglophones, mais on mettait des interprètes. On piochait dans les unités des soldats qui servaient d'interprètes. Et donc, ils allaient voir la population, les mairies pour pouvoir traduire, pour pouvoir donner les instructions. Et ce qui est intéressant dans mes recherches, il n'y a pas que le point négatif de la guerre, c'est-à-dire les morts, il y a aussi les mariages. C'est-à-dire que j'ai découvert que 25 soldats, alors il y en a certainement beaucoup plus, mais 25 soldats canadiens sont mariés avec des Françaises. Et principalement, c'était des Canadiens français. Donc il n'y avait ni la barrière de la langue, ni la barrière de la religion, puisqu'ils étaient catholiques. Donc c'est à peu près, mais principalement ce sont des Acadiens et quelques Québécois.
Alors quand vous dites qu'ils se sont mariés, ça veut dire qu'ils sont restés en France ou ils sont repartis avec leurs épouses au Canada? Comment ça s'est passé?
Alors le gouvernement canadien a autorisé, enfin le gouvernement canadien du corps forestier canadien, voire de l'état-major, a autorisé ces femmes à suivre leur époux au Canada. Donc ils sont partis sur les bateaux avec leur époux, et c'est ce qu'on va appeler au Canada les épouses de guerre ou les war brides. Voilà, donc elles vont suivre. Certains sont restés au Canada et d'autres ont demandé à leur époux de rentrer en France. Donc c'est comme ça que j'ai pu retrouver certains, euh, c'est certains parcours. Et là, avec ma compagne qui m'aide, qui c'est, on va dire, c'est elle, l'instigatrice de la bande dessinée, on va fin octobre, début novembre, on va au Canada sur les traces de ces soldats qui, eux, et ces Françaises qui se sont mariées en France, qui sont reparties au Canada ou immigrées au Canada pour les épouses et sont morts au Canada.
D'accord. Alors, pour effectuer, on rappelle, hein, pour les personnes qui prendraient l'émission donc en cours de route, hein, vous êtes bien sur présence donc, dans Un jour, un livre, un auteur. On reçoit David Devigne donc, pour l'ouvrage Les faiseurs de sciures qui parle de ces soldats canadiens qui sont venus durant la Première Guerre mondiale pour couper des arbres, pour alimenter effectivement en bois le front. Hein, on rappelle, hein, pour tous ceux qui iront visiter le front, ben, qu'une tranchée, ça ne tient pas tout seul. Hein, on ne peut pas marcher non plus dans la boue. Donc il faut qu'à un moment donné, ben, on ait effectivement du bois au niveau du sol, du bois sur les côtés et du bois pour alimenter donc les sapes, hein, pour pouvoir faire en sorte effectivement que ça ne s'écroule pas. Donc c'est vraiment un ouvrage particulièrement intéressant. Vous avez un certain nombre de photos à l'intérieur. Comment vous vous êtes procuré ces photos? Parce qu'il y a marqué collection, notamment par David Devigne. C'est-à-dire que vous avez acheté les photos?
Alors certaines, je les ai trouvées soit dans des brocantes ou soit il y en a... Dans les brocantes, oui. Parce que les gens ne savaient pas identifier quelles étaient ces unités. Hein. Parfois, quand c'était des cartes postales, l'intitulé était... Et c'était une erreur. Et aussi par rapport aux familles qui m'ont donné beaucoup de photos que leur grand-père, qui était canadien, avait conservé dans leurs archives familiales.
Et que vous avez réinvesti là-dedans. Alors, on va parler du matériel, parce que quand je vous ai rencontré avec votre épouse, je vous ai rencontré dans le plus beau pays du monde, c'est celui de ma mère dans les Landes, dans le Marensin, en toute objectivité, hein, Diego Arabalet, bien entendu.
Mais je sais que vous êtes
bien
d'une objectivité totale.
Toujours, vous savez, ça, là-dessus, elle est légendaire. Hein. On s'est rencontré donc au musée du Marensin à l'ITMX et il y avait du matériel de sillage qui était exposé. Donc pour moi, c'était du matériel de sillage. Et j'ai découvert au travers des scies qu'il y avait des scies françaises et des scies canadiennes.
Alors voilà, la particularité et surtout la différence entre la France et les Nord-Américains, parce que ce sont des Nord-Américains, ils avaient le même système pour attaquer un arbre que les Américains comme les Canadiens. C'est-à-dire, les scies, elles sont en France... pas tout à fait. Les scies françaises, c'était des scies à bandes. Alors qu'au Canada, enfin en Amérique du Nord, ce sont des scies circulaires. Et par contre, les passe-partout, c'est très particulier.
Alors les passe-partout, on rappelle, hein, c'est les scies qu'on manie à deux.
À deux, d'accord, voilà, c'est
avec
ça.
Avec un homme dessus et un homme en dessous. Il y en a un qui pousse, un qui tire. Et le mouvement inverse, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait dépité l'arbre.
C'est ça, tout à fait. Alors c'est très particulier. Nous, ce sont des dents, simples. Et puis on oriente on lui donne de la voix. Eux, ils ont un crochet, trois dents, un crochet, trois dents. Et ce qui permet d'éjecter beaucoup plus rapidement la sciure et faire tomber l'arbre très rapidement. C'est-à-dire, on estime qu'un arbre de 30 à 40 ans, les Canadiens mettaient 5 minutes pour le faire tomber. Ah
ouais. C'est-à-dire, et un Français, combien, comparativement avec...
Là, j'ai pas de chiffres, parce que c'était pas la même industrie, c'était pas pour la même utilisation au départ. Alors, le pain est très connu dans les mines, parce que le pain gémé, je précise, parce qu'il est très résistant. Et les mineurs aimaient ce bois parce qu'il avait une particularité, c'est-à-dire quand il allait céder, quand il allait craquer, il émettait un son très significatif. Et donc les mineurs savaient qu'il fallait évacuer la galerie. Voilà, tout à fait. Mais c'était... Donc, alors, aussi, ils attaquaient à la cognée, c'est-à-dire ils donnaient entre 6 et 8 coups de hache dans l'arbre, et après, ils passaient derrière, il y avait le passe-partout.
Pour faire la taille de direction.
Exactement. Exactement, et après, ils faisaient tomber le pain. Voilà, et un chêne, il mettait à peu près une dizaine de minutes.
D'accord. Alors, moi, j'ai réalisé une chose quand je vous ai rencontré, c'est que mon grand-père avait une scie, effectivement. Mon grand-père était de 1901. Donc, il est né à Bosse, juste à côté de l'Esperon, pas loin de l'Esperon. Donc, vous disiez, il y avait des ouvriers canadiens. J'ai découvert, en fait, que la scie qu'il avait, qu'on a toujours, est une scie canadienne.
Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Donc, ça veut dire qu'il avait, il avait 18 ans au moment de la fin de la guerre. Il était bûcheron donc à cette époque-là. Hein, il était mobilisable en 1919 si jamais la guerre effectivement avait continué, puisqu'il était d'avril. J'ai découvert qu'en fait, il a dû racheter donc cette scie, je pense à des ouvriers canadiens qui se situaient donc à l'Esperon, et que ce matériel, sans même qu'on ne connaisse son origine, c'est diffusé dans les Landes. Et c'est vrai que quand je vous ai entendu dire c'est une scie canadienne, je me suis dit, mais très franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Je me suis dit, c'est pour ça que sur le moment, je vous ai interpellé. Et je me suis dit, il faut qu'on l'invite, parce que derrière, il y a quelque chose, effectivement, à dire là-dessus, sur toute cette histoire. Et sur ces Canadiens, effectivement, ils s'appelaient les faiseurs des sciures, effectivement, qui ont effectué ce travail. Alors, vous dites après, bon, on a la grippe espagnole qui arrive. Hein. Alors, on rappelle que la grippe espagnole, à l'origine, c'est une grippe aviaire. Hein. Donc, on a au départ un virus qui se développe exactement comme celui de la Covid, a priori à partir d'un animal, et qui vient ensuite, effectivement, qui s'adapte ensuite donc à l'espèce humaine. On l'appelle la grippe espagnole parce que le premier journal à en parler dans le monde, c'est El País. Alors qu'on pense qu'effectivement, la grippe est venue des États-Unis, donc on aurait dû dire grippe américaine. Et là, on a des soldats qui meurt. Moi, j'ai une question à vous poser. Pourquoi, à votre avis, cette histoire est tombée dans l'oubli ?
Alors, elle est tombée dans l'oubli tout simplement parce que ces unités ont été créées pour la guerre et uniquement pour servir pendant la Première Guerre mondiale. Et le corps forestier canadien a été créé en 1916, dissous en 1920, réactivé en 1939 et dissous en 1945. Et il n'y a aucune unité, puisque c'est aucun corps d'armée ne s'est réapproprié l'histoire de ces hommes. Pour eux, c'était des unités de logistique. Et alors, grâce à mon travail, je suis assez heureux de voir que les troupes du génie canadien militaire ont repris les traditions ou l'histoire de ces hommes. Mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est de penser que mon arrière-grand-père, qui combattait lui dans les tranchées à Verdun, dans l'Aisne, en Alsace, pendant qu'il combattait, des hommes venaient explorer sa forêt. C'est comme Carole, ma compagne, qui est d'origine moitié girondine, moitié normande, et du côté de son grand-père, qui lui aussi a fait la Grande Guerre, pendant qu'il était au front, des hommes sont venus exploiter les forêts qui étaient juste à côté de chez lui. Il est originaire de l'Orne, et dans son département, des troupes ont exploité les forêts de l'Orne, et c'est le premier déploiement des Canadiens en France.
D'accord.
Et donc, qui donne, on le répète, pour les personnes qui prennent en cours l'émission, donc les faiseurs de sciures, d'accord, donc sur le corps forestier canadien, donc du groupe de Bordeaux, le plus important déploiement en France 1917-1919. On va faire une seconde émission la semaine prochaine là-dessus. Juste avant de terminer cette première émission, vous avez été décoré de la Meritorious Service Medal par les autorités canadiennes. Expliquez-nous dans quelles circonstances vous avez été décoré.
Alors, au bout d'un moment, en France, je manquais d'informations. Donc, j'ai contacté l'armée canadienne.
Vous avez contacté comment ? Par l'ambassade du Canada ?
D'abord par l'ambassade du Canada. Puis après, j'avais des relations, parce que depuis à peu près 30 ans, je fais des recherches sur les troupes canadiennes. Et donc, en 2015, on a créé un chemin de mémoire avec un groupe de travail. J'ai attiré des camarades dans mes recherches. Et en 2015, on a commencé par inaugurer ce chemin de mémoire avec la venue d'un aumônier général canadien, puisque ces hommes qui sont morts de la grippe espagnole, il n'est pas certain qu'ils ont eu tous les honneurs militaires et religieux. Et cet homme, qui était David Kettle, qui était aumônier général des forces armées canadiennes, est venu leur rendre les honneurs militaires et religieux. Et à la création de ce chemin, les Canadiens ont vu mon leadership par rapport à ce travail et par rapport toutes les plaques qui avaient été, c'est à peu près 17 plaques qui ont été posées dans les Landes et en Gironde, qui ont décidé de me distinguer de la médaille du service méritoire.
D'accord. Quelle était la réaction de l'ambassade du Canada quand vous les avez contactés ? Surpris ?
Oui, plus que surpris, puisqu'ils ne connaissaient pas cette histoire.
Ah, ils ne connaissaient pas cette histoire ?
Non, comme la majorité des Canadiens et des Français, c'est une histoire qui était tombée dans l'oubli. 100 ans après, c'était pour eux, c'était Même j'ai été convoqué dans certaines municipalités. Et
Française.
Et je me souviens d'un maire qui m'a demandé, mais monsieur, que vous me racontez ça, mais est-ce que vous avez des preuves? Moi, je suis là depuis X générations. On n'a pas cette histoire. Donc moi, j'ai ouvert les livres de marche et j'ai dit, mais là, c'est bien le nom de votre commune. Là, ce sont les quartiers de votre commune. Donc je pense que l'armée canadienne ne s'amuse pas à écrire n'importe quoi, se sont déployés à tel endroit pour parce qu'ils ont
et la réaction du maire.
Ben le maire était très surpris parce que cette personne n'avait aucune information sur le passage de ses troupes, alors qu'il y a quand même 4 compagnies qui y sont passées.
Bon, ben on va poursuivre la semaine prochaine, vous voyez, sur cette histoire. Vous voyez que depuis le début de l'année, on a fait la Commune de Paris. On fait des sujets très divers, mais très intéressants, Philippe Subercase.
Je ne dis jamais le contraire.
Vous voyez, on est devenu indispensable depuis 12 ans à Radio Présence avec Diego Arabal.
Oui, tout à fait. Du coup, la semaine prochaine, on passe d'un livre écrit à une BD.
À des bandes dessinées, voilà. Tout à fait. Toujours sur ce même thème, des troupes canadiennes, effectivement, qui sont venues durant la Première Guerre mondiale.
Très bien. Eh bien, écoutez...
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci.
Merci. Au revoir.